Chapitre 33. Attente. La veille du jour où devait arriver le docteur, je reçus d'abord dans la matinée une lettre confidentielle d'Oscar. Comme beaucoup de personnes timides, il avait la manie de s'expliquer, dans les circonstances difficiles, par écrit et formal, quand il lui était si facile de le faire verbalement et d'une manière bien plus satisfaisante. Oscar me disait dans sa lettre qu'il était parti pour Londres par le premier train et que, s'il entreprenait ce voyage inattendu, c'était pour aller demander à une personne qui avait étudié tout spécialement les effets physiologiques de la cécité sur les aveugles, son avis sur sa position à l'égard de Lucille. En un mot, il voulait aller consulter M. Seabright. « J'aime, continuait-il, M. Seabright, autant que je déteste Herr Grosse. La courte conversation que j'ai eue avec lui m'a donné la meilleure opinion de sa bonté et de sa délicatesse. Je crois que si j'expose à cet habile médecin ma triste situation, il saura, grâce à son expérience, jeter un jour nouveau sur l'état mental de Lucille et sur le changement auquel nous pouvons nous attendre dans le cas où elle recouvrerait la vue. Ses conseils peuvent avoir une importance capitale en me montrant comment, sans lui nuire et sans me nuire à moi-même, je pourrais lui avouer la vérité. Ceci ne doit pas vous donner à supposer que je n'apprécie pas à leur juste valeur vos conseils, mais je me sentirai doublement fort pour me risquer à dire la vérité à Lucille après avoir consulté un homme de science. » Tout ce qu'écrivait Oscar me sembla signifier qu'Oscar, toujours en proie à l'hésitation, cherchait à satisfaire sa conscience en gagnant du temps et que son absurde désir de consulter M. Seabright n'était qu'un prétexte spécieux pour remettre à un autre jour le moment redouté. Le fiancé de Lucille terminait sa lettre en me suppliant d'arranger les choses de manière à avoir une entrevue secrète avec lui à son retour de Londres par le train du soir. J'avoue que je me sentis un certain désir de savoir ce qu'avait conseillé ce M. Seabright, si correct et si froid, à Oscar, qui était l'indécision en personne, et je m'arrangeai pour aller me promener seul vers 8 heures du soir sur la route de Brighton. Comme second incident, je pus mentionner l'entretien confidentiel que j'eus avec Lucille, touchant l'important sujet qui occupait toutes nos pensées, en un mot, l'heureux moment où elle recouvrerait la vue. Lucille vint me retrouver à déjeuner. Sa méfiance habituelle était excitée plus de coutume, pauvre fille, par la conduite d'Oscar. Pour expliquer son voyage à Londres, il lui avait donné le prétexte banal que ses affaires l'y appelaient. Elle le soupçonnait, sachant bien quelle était son opinion à cet égard, de nourrir le secret espoir d'entraver l'opération que devait faire Herr Grosse. Je calmai l'appréhension de la jeune aveugle en lui rappelant la méfiance et l'aversion de son fiancé pour l'oculiste allemand. « Soyez tranquille, lui dis-je, je vous réponds qu'il ne s'aventurera jamais auprès d'Herr Grosse. » Quand Lucille reprit la parole après un assez long silence, ce fut pour me parler d'Oscar et de l'opération prochaine, avec un découragement qui semblait avoir renversé toutes ses espérances. Chose étonnante de sa part, elle se mit à dénigrer le plaisir que doivent ressentir les aveugles qui recouvrent la vue. « Savez-vous, me dit-elle, que sans mon prochain mariage avec Oscar, je n'aurais jamais donné la peine à aucun oculiste anglais ou étranger de faire le voyage à Dymchurch ?»« Je ne vous comprends pas, lui répondis-je. Comment oserez-vous me dire que, mettant de côté cette raison ou toute autre, vous ne seriez pas bien heureuse de recouvrer l'usage de vos yeux ?»« C'est précisément ce que je voulais dire. » »« Comment ? Vous qui avez écrit à Herr Grosse dans le but de hâter le moment de l'opération, vous me déclarez que vous désirez ne pas être guéri ?»« Tout ce que je désire, c'est de voir Oscar de mes propres yeux. Et si j'ai ce désir, c'est que je l'aime. Sans cela, retrouver la vue n'a pour moi rien de bien attrayant. J'ai été si longtemps aveugle que j'ai appris à me passer de mes yeux. » Et cependant, Nugent en semblait vous transporter de joie en vous disant que vous n'étiez peut-être pas incurable. J'avoue en effet qu'au premier moment j'ai été surprise et n'ai pu me contenir. J'ai fait mes réflexions depuis et mon premier enthousiasme s'est calmé. Vraiment, vous qui n'êtes pas aveugle, vous attachez une importance absurde à l'organe de la vue. Sens contre sens, je gagnerai que mes doigts sont plus dignes de confiance que vos yeux. Si je ne mettais Oscar au-dessus de tout, savez-vous ce que j'aurais bien mieux aimé que de recouvrer l'usage de mes yeux si j'eusse pu? Mais voilà, la chose est malheureusement impossible. » En disant ces mots, Lucile secoua la tête avec une résignation comique. « Qu'est-ce, Lucile ?»« Que ses bras, dit-elle en les étendant au-dessus de la table, puissent s'allonger à des distances incommensurables. Voilà ce que j'aurais désiré. J'aurais pu alors découvrir ce qui se passe au loin, bien mieux que vous avec vos yeux et vos télescopes. J'aurais éclairci les doutes qu'ont les savants sur le système planétaire, si j'avais pu étendre les bras pour toucher les astres du doigt. Allons, ma chère enfant, voilà que vous vous mettez à dire des absurdités. » Des absurdités, reprit Lucile. Dites-moi donc un peu si vous pouvez y voir dans l'obscurité, tandis que moi, je jouis toujours du sens du toucher. Qui de vous ou de moi possède le sens qui peut fonctionner pendant les 24 heures de la journée sans interruption? Tenez, pour vous parler franchement, si Oscar n'était en jeu, j'aimerais mieux perfectionner un sens que je possède déjà que d'en acquérir un que je ne connais pas. Je crois vraiment qu'avant de connaître Oscar, je n'ai jamais envié la possession de ce sens qui me manque. Lucile, vous m'étonnez. La jeune fille agita impatiemment sa cuillère dans sa tasse. Pouvez-vous, reprit-elle, avoir une parfaite confiance en vos yeux, même en plein jour? Combien de fois vous ont-ils trompé, même dans les choses les plus simples? Pourquoi vous disputiez-vous donc l'autre jour dans le jardin en regardant dans le lointain? Un objet quelconque, placé dans l'avenue d'arbres, qui s'étend à l'autre bout du mur du cimetière, avait attiré votre attention. En effet, l'objet en question se trouvait au bout de l'avenue. « Je vous entendais de ma chambre, reprit-elle. Malgré ces yeux, auxquels vous attachez une si grande importance, vous étiez tous d'un avis différent. Mon père prétendait que cet objet remuait, et vous affirmiez le contraire. Oscar disait que c'était un homme, et Duggan, qui y voyait un veau, courut examiner de plus près cet objet extraordinaire. Ce n'était que le tronc d'un vieil arbre que le vent avait abattu en travers de l'avenue pendant la nuit. Comment pourrais-je, après cela, envier un sens qui trompe ainsi ceux qui en jouissent? Non, non, Herr Grosse va m'enlever, comme il dit, ma cataracte, parce que je vais épouser l'homme que j'aime, et que, comme une sotte, je m'imagine que je l'aimerais mieux si je puis contempler ses traits. Mais je puis me tromper, ajouta Lucile d'un petit air malicieux, et peut-être ne l'aimerais-je pas autant qu'à présent. En songeant à la figure d'Oscar, je me sentis une peur horrible, qu'elle ne dit plus vrai qu'elle ne le croyait. J'essayai de changer le sujet de la conversation, mais avant que j'eusse pu dire un mot, son imagination l'avait emporté dans de nouvelles régions. « Pour moi, poursuivit-elle, la lumière est synonyme de tout ce qu'il y a de beau et de divin, l'obscurité de tout ce qui est vil, horrible, diabolique. Je me demande si je conserverai cette idée en recouvrant l'usage de mes yeux. » Je crois, lui dis-je, que vous serez bien étonné en voyant combien votre imagination vous induit en erreur. Lucile tressaillit. J'avais, sans le vouloir, réveillé ses craintes. La figure d'Oscar sera-t-elle par hasard bien différente de ce que j'imagine? Me dit-elle avec une altération subite dans la voix. Prétendez-vous que le portrait que je me suis fait de lui jusqu'à ce jour ne lui ressemblerait en rien? Je voulus encore une fois changer le sujet de la conversation. Pouvais-je en agir autrement en me souvenant de la recommandation du docteur allemand de ne pas agiter Lucile avant l'opération qui devait se faire le lendemain? Ce fut peine perdue. La jeune fille continua, sans faire attention à ce que je disais. « N'ai-je pas la faculté de reconnaître, commentait Oscar? Quand je me touche la figure, j'en constate la largeur, la longueur et les proportions. Je touche ensuite le visage d'Oscar et je le compare au mien. Aucun détail ne m'échappe et je le vois en imagination aussi clairement que vous me voyez en ce moment. Me direz-vous que je vais découvrir, quand je le verrai de mes propres yeux, quelque chose de complètement nouveau pour moi? Allons, je n'en crois rien. » Lucille se leva avec impatience et fit un tour dans la chambre. « Que ne puis-je » s'écria-t-elle en frappant du pied. « Prendre une dose suffisante de laudanum ou de chloroforme pour suspendre ma vie pendant les 6 semaines qui vont s'écouler et ne revenir à moi qu'au moment où le médecin m'enlèvera le bandeau des yeux. » Lucille se rassit et tomba sans transition dans une question purement morale. « Dites-moi, me dit-elle, si la plus grande des vertus est celle que l'on a le plus de mal à pratiquer. » « Je le crois, répondis-je. » Elle se mit à tambouriner des doigts sur la table aussi fort qu'elle le put. « Alors, Madame Pratolongue, la plus grande vertu, c'est la patience. Si vous saviez, ma chère amie, combien pour le moment je déteste cette vertu-là. » Sur ce, nous changeâmes de conversation. En songeant dans la suite au nouveau jour sur lequel s'étaient montrées les pensées de Lucille, je tirai une consolation de la conversation que nous avions eue à déjeuner. Dans le cas où la prédiction de M. Seabright s'accomplirait et où l'opération ne réussirait pas, je réfléchis que j'aurais la consolation de me rappeler que Lucille m'avait déclaré que son infirmité n'était pas par elle-même aussi affreuse pour les aveugles que nous le pensions. Vers 7h30 du soir, je sortis seul, comme j'avais résolu de le faire, pour aller à la rencontre d'Oscar qui revenait de Londres. Je l'aperçus sur la route s'avançant vers moi. Il marchait d'un pas plus rapide qu'à l'ordinaire et chantait. Le visage du pauvre garçon rayonnait de joie malgré la couleur livide qui le défigurait. Il agita joyeusement sa canne. « Bonne nouvelle » cria-t-il de toute la force de ses poumons. « Monsieur Seabright m'a rendu mon bonheur. » Je n'avais jamais vu Oscar ressembler autant à son frère qu'en ce moment-là. Il vint me serrer la main. « Racontez-moi cela, lui dis-je. » Il me donna le bras et nous nous mîmes à causer tout en poursuivant notre chemin vers Dymchurch. « D'abord, commença-t-il, Monsieur Seabright affirme avec plus d'assurance que jamais que l'opération ne réussira pas. « C'est cela que vous appelez une bonne nouvelle ?» lui dis-je d'un ton de reproche. « Non pas, répondit-il, j'avoue à ma honte qu'à un certain moment, j'espérais qu'il en serait ainsi. Mais M. Seabright m'a rendu courage. J'ai du reste peu ou rien à craindre dans le cas où, par extraordinaire, l'opération réussirait. Je vais vous dire tout simplement l'opinion de M. Seabright pour vous donner une idée du ton qu'il a pris en entrant en matière. Il n'a consenti qu'en protestant à admettre, même en imagination, le succès que Lucille et Herr Grosse regardent comme certain. « J'admets, a-t-il dit, pour vous faire plaisir, que Mademoiselle Finch ait recouvré la vue dans 2 mois d'ici. Allez !» Je lui annonçai que j'allais épouser Lucille. « Je vais vous dire comment M. Seabright a accueilli cette nouvelle, dis-je, sans dire un mot et en vous faisant un salut. » Oscar se mit à rire. « C'est très vrai, répondit-il. » Je lui décrivis ensuite la version extraordinaire de Lucille pour toutes les nuances foncées. Devinez ce qu'il m'a répondu. J'avouai que je ne connaissais pas assez M. Seabright pour deviner sa réponse. Eh bien, il m'a répondu que cette antipathie était commune, d'après son expérience, à tous les aveugles et que c'était là un des singuliers effets de leur infirmité. Le physique réagit d'une manière mystérieuse sur le moral, sans que nous puissions en donner l'explication, me dit-il. Nous ne pouvons que le constater. L'antipathie dont vous me parlez est incurable, à moins que l'aveugle ne recouvre l'usage de ses yeux. Le docteur Seabright s'arrêta et refusa, malgré mes instances, de continuer avant que je lui eusse fait part de tout ce que j'avais à lui dire. Je lui avouai donc la vérité. « Vous ne lui avez rien caché ?»« Rien. Je me suis montré à lui dans toute ma faiblesse. Je lui ai dit que Lucille était intimement convaincue que c'était Nugent qui était défiguré et non moi. Je le priai ensuite de me dire ce que j'avais de mieux à faire. « Et que vous a-t-il répondu ?» Il m'a répondu dans ces termes. « Si vous me demandez ce qu'il y a à faire dans le cas où Mademoiselle Finch resterait aveugle, ce qui est sûr, je ne puis vous donner de conseils. Je laisse à votre conscience et à votre honneur le soin de résoudre cette question. Si l'opération doit réussir, je puis satisfaire à votre demande et vous parler à cœur ouvert. Laissez les choses où elles en sont et attendez que Mademoiselle Lucile ait recouvré la vue. » Ces paroles du docteur Seabright enlevèrent un si grand poids de ma poitrine que je n'osais en croire mes oreilles et que je les lui fis répéter. Je compris, en apprenant ce qu'avait dit M. Seabright, la joie d'Oscar. « Vous a-t-il exposé, lui dis-je, la raison pour laquelle vous devez attendre ?»« Je vais vous la dire. Le docteur a voulu savoir d'abord si je comprenais bien quelle était ma position à Dymchurch. La première condition de réussite, comme vous l'a dit Herr Grosser, est dans la tranquillité d'esprit parfaite de la demoiselle. Si vous lui faites vos aveux, vous la jetez dans un état d'agitation qui empêchera mon collègue d'entreprendre l'opération demain. Si vous ne les faites pas, il devient indispensable que vous gardiez le silence jusqu'à ce que l'oculiste ait annoncé une guérison radicale. Voilà la situation. Je vous conseille d'adopter la seconde alternative. Attendez et gardez, avec le concours des personnes qui l'entourent, le secret jusqu'à ce que l'opération ait complètement réussi. J'interrompis le docteur. « Voulez-vous me dire, lui demandai-je, s'il faut que je sois présent la première fois qu'elle se servira de ses yeux? Doit-elle me voir défigurée comme je le suis, sans que je prenne la précaution de l'y préparer ?» La conversation devenait intéressante. Les Anglais, lorsqu'ils causent en marchant, ne savent pas s'arrêter au moment le plus intéressant, contrairement à ce que, nous autres Français, nous faisons toujours. Oscar se montra surpris lorsque je l'arrêtai au beau milieu de la route. « Qu'avez-vous donc ? » me demanda-t-il. « Continuez, lui dis-je avec impatience. À marcher, je ne le puis si vous me tenez ainsi. » Je le tenais toujours et lui répétai de continuer. Oscar se résigna donc à s'arrêter au milieu de la route. « Monsieur Seabright, reprit-il, me répondit par une autre question. » Il me demanda comment je comptais préparer Lucile à me voir défigurée comme je l'étais. « Qu'avez-vous répondu ?» Je lui ai répondu que j'avais trouvé un prétexte pour quitter Dymchurch ce jour-là et pour écrire à Lucile afin de la préparer à me voir à mon retour. « Qu'a-t-il pensé de ce prétexte ?» Il n'a pas même voulu le prendre en considération. Tout au contraire, il m'a dit « Je vous conseille fortement de vous présenter devant elle aussitôt qu'elle ouvrira les yeux. J'attache la plus grande importance à ce que Mademoiselle Finch soit à même de corriger tout d'abord, en vous voyant telle qu'elle, l'horrible image qu'elle se fait d'une figure telle que la vôtre. » En causant ainsi, nous avions repris notre marche. Mais certains mots de cette dernière phrase me surprirent et je m'arrêtai de nouveau. « L'horrible image ?» répétai-je en pensant à la conversation que j'avais eue avec Lucile le matin même. « Qu'a voulu dire M. Seabright en se servant de cette expression ?» C'est précisément la question que je lui fis. Sa réponse vous intéressera, car en la faisant, il exposa les motifs qu'il a dictés, motifs que vous désirez connaître. Mes pieds collés au sol reprirent leur activité et nous poursuivîmes notre chemin. Quand j'eus parlé à M. Seabright du préjugé invétéré de Lucile, reprit Oscar, il m'apprit que ce préjugé était commun à tous les aveugles et qu'ils ne s'en débarrassaient qu'en recouvrant la vue. Puis il me cita, comme preuve de ce qu'il avançait, deux cas fort intéressants qu'il avait rencontrés dans le cours de sa carrière médicale. Le premier était celui d'une petite fille, aveugle comme Lucile dès sa plus tendre enfance, et dont le père avait servi aux Indes en qualité d'officier. Après l'opération, le docteur Seabright put permettre à la jeune fille d'exercer sa vue, ou plutôt d'essayer d'abord si elle saurait distinguer un objet foncé d'un objet de couleur claire. Parmi les membres de la famille et les domestiques réunis pour voir lever le bandeau, se trouvait la nourrice indienne qui avait accompagné la famille en Angleterre. L'enfant jeta d'abord les yeux sur sa mère qui était blonde. Elle fut tellement surprise qu'elle en leva les mains en l'air en les joignant. Mais en tournant la tête, elle aperçut la nourrice à la peau brune et se mit à pousser des cris de terreur. M. Seabright m'a assuré qu'il ne pouvait expliquer la raison de ce sentiment. L'enfant n'avait jamais pu savoir ce que c'était que la couleur, et cependant, à un âge aussi tendre, elle n'avait que 10 ans, Elle montrait la version violente et l'horreur qu'ont les aveugles pour les nuances foncées. Je pensais, quand il me raconta ce fait, à ma propre position et à mes chances auprès de Lucille. Je demandai à M. Seabright si l'enfant avait fini par s'habituer à sa nourrice. Il me répondit qu'une semaine après, il trouva la petite fille assise sur les genoux de cette femme, aussi calme que lui sur sa chaise. Ce fait est de nature à m'encourager, n'est-ce pas ? En effet, lui répondis-je, on ne pourrait le nier. Le second cas, reprit-il, était encore plus singulier. Il s'agissait cette fois d'un homme, et le docteur a voulu me le raconter pour me montrer quelles idées bizarres et fantastiques les aveugles se font des personnes qui les entourent. Cet homme était marié et devait voir, comme Lucille me verra un jour, sa femme pour la première fois. On lui avait dit, avant qu'il l'épousât, qu'elle était défigurée par une cicatrice à la joue. La pauvre femme, et je le comprends parfaitement bien, tremblait d'appréhension. Son mari, qui l'avait aimée tendrement tant qu'il était aveugle, pouvait la prendre en aversion en l'en voyant défigurée. Il avait cependant été le premier à la calmer sur ce point lorsqu'on avait décidé de faire l'opération. Il déclara qu'à l'aide de son toucher et des renseignements qu'on lui avait donnés, il avait une idée très complète et très fidèle de l'aspect de sa femme. M. Seabright n'avait pu le convaincre qu'il était impossible à lui, aveugle, de se faire une idée d'une personne qu'il n'avait jamais vue. Cet homme ne voulut pas entendre raison, et il était si sûr de son fait qu'il tenait la main de sa femme dans la sienne au moment où on lui enleva le bandeau. Mais à peine eut-il aperçu celle-ci qu'il poussa un cri d'horreur et retomba évanoui sur son siège. Sa pauvre femme était au désespoir et M. Seabright la calma de son mieux en attendant que le mari fût assez remis de son émotion pour répondre à ses questions. Il parut alors, dit le docteur, que l'idée qu'il s'était faite de sa femme et de la cicatrice qu'elle portait était si grotesque et si invraisemblable à la fois qu'on ne savait s'il fallait en rire ou en frémir. Quand il la comparait à l'idée qu'il s'en était faite, elle était belle comme un ange. Et cependant, quoiqu'il se fût habitué à cette idée, il avait éprouvé une vraie terreur et un sentiment de répulsion en la voyant pour la première fois. Au bout de quelques semaines, il fut à même de la comparer avec les autres femmes, d'examiner des tableaux et de comprendre ce que c'était que le beau et le laid. À partir de ce moment, ils ont vécu tous deux aussi heureux que tout autre couple du Royaume-Uni. Je ne comprenais pas bien la morale de cette histoire et je me sentis alarmé en songeant à Lucille. Je m'arrêtai de nouveau. Quelle déduction M. Seabright a-t-il tiré de ce cas à l'égard de Lucille ? Demandai-je à Oscar. Vous allez le savoir, me répondit-il. Il s'en servit pour me démontrer que ce fait venait à l'appui de l'opinion qu'il avait émise et qui était que Lucille devait se faire de moi une idée complètement fausse. Il me demanda si j'étais enfin persuadé qu'elle était dans l'incapacité de se faire une idée juste, soit de la figure des gens, soit des couleurs, et si j'avais acquis la conviction que l'image qu'elle se faisait de l'homme à la figure bleuâtre était d'une bizarrerie fantastique et hideuse. Je lui répondis qu'il en était ainsi. « Soit, reprit M. Seabright, mais souvenons-nous maintenant qu'il existe une importante différence entre le cas de Mlle Finch et celui que je viens de vous citer. » Dans le susdit cas, le mari s'était habitué à l'idée qu'il s'était faite. De là une pénible émotion en voyant sa femme bien différente de ce qu'il s'était imaginé. Quant à Mlle Finch, cette figure bleuâtre lui est odieuse, mais il ne faudrait pas en conclure que lorsqu'elle vous verra pour la première fois, elle sera terrifiée au lieu d'éprouver du soulagement. Je crois même, d'après mon expérience, que c'est cette dernière conclusion qu'il faut adopter, et je vous conseille, dans votre propre intérêt, d'être présent quand on enlèvera le bandeau. En supposant même que je me trompe et qu'elle ne s'habitue pas tout de suite à votre aspect, j'ai là l'exemple de l'enfant et de sa nourrice indienne pour vous prouver que ce n'est qu'une affaire de temps pour qu'elle s'habitue à vous voir. Tôt ou tard, elle en prendra son parti, comme le ferait toute autre jeune fille. Elle s'indignera d'abord que vous l'ayez trompée, mais si vous êtes sûr qu'elle vous aime, elle finira par vous accorder votre pardon. Voilà mon avis sur votre situation et voilà aussi les raisons sur lesquelles je me base pour vous le donner. Pour le moment, Je maintiens plus que jamais ce que je vous ai dit touchant l'opération, et je crois fermement que les conseils que je viens de vous donner ne vous serviront à rien. Il y a 500 chances contre une que Mademoiselle Lucile ne vous verra pas plus quand il enlèvera son bandeau qu'elle ne vous voit à présent. » Telles furent les dernières paroles du docteur Seabright, dit Oscar en finissant. Nous continuâmes notre chemin en silence. Je n'avais rien à opposer aux raisons données par M. Seabright. Il était impossible de nier que le docteur anglais ne se basât sur des exemples qu'il avait vus dans le cours de sa carrière médicale. Je sentais qu'il avait raison en ce qui regardait les aveugles pris en masse et que la déduction qu'il tirait de son expérience propre était la vraie. Mais il s'agissait ici de Lucile, qui faisait tout à fait exception à la règle, et malgré l'expérience de M. Seabright, je connaissais trop bien la jeune fille pour partager, en songeant à l'avenir, les espérances d'Oscar. Lucile avait le caractère ainsi fait que l'on pouvait s'attendre à quelque chose, en actes ou en paroles, qui mettrait en déroute toutes les prévisions. L'avenir d'Oscar ne m'avait jamais paru aussi sombre qu'à ce moment. Il eût été cruel et inutile d'en avertir Oscar. Je pris donc un air aussi satisfait que possible et lui demandai s'il se proposait de suivre les conseils de M. Seabright. « Oui, me répondit-il, à une exception près et à laquelle je n'ai songé qu'après avoir quitté le docteur. Puis-je vous demander ce que c'est ? Certainement, je prierai Nugent de quitter Dimchurch avant que Lucile ait complètement recouvré l'usage de ses yeux. Il fera cela pour moi, j'en suis sûr. Et quand votre frère sera parti, que ferez-vous ? J'assisterai à la levée du bandeau qui couvre les yeux de Lucile. En la prévenant sans doute que c'est vous qui êtes dans la chambre ? Non, et c'est alors que je prendrai la précaution dont je voulais parler. Je me propose de laisser Lucile dans l'idée que c'est moi qui ai quitté Dimchurch et que ma figure est celle de Nugent. Si les prévisions de M. Seabright sont vraies et que sa première sensation soit un mouvement de soulagement, je lui avouerai la vérité le jour même. Dans le cas contraire, j'attendrai qu'elle soit habituée à mon aspect. Je pars de cette manière à toutes les éventualités. C'est depuis que je suis à Dimchurch la seule idée ingénieuse qu'ait conçue mon cerveau obtus. » Oscar prononça ces paroles d'un air triomphant et avec tant de naïveté que je ne me sentis pas le courage de modérer son ardeur en lui disant ce que je pensais de son idée. Je me contentai de lui dire que les meilleures idées étaient à la merci des circonstances et qu'il pouvait survenir au dernier moment un incident qui le forcerait à s'expliquer. Nous arrivâmes en vue du presbytère au moment où je lui donnais ce dernier avertissement. Nugent se promenait sur la route en nous attendant. Je laissai Oscar lui raconter tout ce qu'il venait de me dire et je rentrai dans la maison. Lucile était au piano. Elle chantait, chose qu'elle faisait rarement, en s'accompagnant. Les paroles et l'accompagnement étaient de sa composition. « Je vais le voir, je vais le voir !» Tels étaient les quelques mots dont se composait la chanson, et Lucile les adaptait à toutes les mélodies dont elle avait conservé un heureux souvenir dans son cœur. Ses mains semblaient, si je puis m'exprimer ainsi, folles de joie, et menaçaient à chaque instant de briser les cordes de l'instrument. Jamais, depuis mon arrivée au presbytère, je n'avais entendu un pareil vacarme dans notre maison, si tranquille d'ordinaire. Lucile était dans un état de surexcitation fébrile, qui, à cause des pressentiments que j'avais, me fit de la peine. Je l'enlevai de son tabouret et je fermai le piano de force. « Pour l'amour de Dieu, calmez-vous, lui dis-je. Vous voulez donc tomber dans un état complet d'épuisement avant l'arrivée du docteur allemand qui doit venir demain ?» Ces paroles la calmèrent tout de suite. Elle passa comme un enfant de la surexcitation à la tranquillité. « J'avais tout oublié, dit-elle, en s'asseyant toute inquiète dans un coin. Le docteur peut refuser de faire l'opération. Faites tout votre possible, ma chère, pour me calmer. Prenez le premier livre venu et lisez-moi quelque chose. » Je fis ce qu'elle me demandait, mais ni elle ni moi ne fîmes attention au malheureux auteur, et, ce qui est pis, nous le conspuâmes parce qu'il n'avait pas le don de nous intéresser. Nous le replaçâmes brutalement et à l'envers sur le rayon de la bibliothèque et nous fûmes nous coucher. Quand j'allais lui souhaiter le bonsoir, Lucille se tenait à la fenêtre et la lune baignait d'une douce lumière sa charmante figure. « Astre que je n'ai pas encore vu, murmurait-elle doucement, quand donc pourrais-je te contempler ?» Elle se retourna vers moi et, me prenant vivement la main, elle la posa sur son poignet pour que je lui tâtasse le pouls. « Ne suis-je pas tout à fait calme à présent ?» me demanda-t-elle. « Et le docteur ne me trouvera-t-il pas dans un état favorable pour l'opération ? Mon pouls bat-il régulièrement ?» Je sentis que les battements augmentaient à chaque instant. « Le sommeil va vous calmer, » lui répondis-je. Je l'embrassai et la quittai. Lucille dormit bien. Il n'en fut pas ainsi pour moi. Je passai une fort mauvaise nuit et je me sentis si fatigué le matin que force me fut d'aller me recoucher après déjeuner. Lucille, du reste, m'y engagea en me prévenant que Herr Grosse ne devait arriver que dans l'après-midi et que je pouvais dormir jusque-là. Nous avions compté sans l'excentricité de notre Allemand. Hors de son art, Herr Grosse ne se réglait sur rien et faisait tout par impulsion. À peine m'étais-je endormi d'un sommeil agité et peu réparateur que je sentis la main de Zilla se poser sur mon épaule. La nourrice me dit à l'oreille de me lever que le docteur venait d'arriver par le train du matin. Je courus au salon et j'aperçus Herr Grosse assis devant la table avec sa trousse toute ouverte devant lui. Il examinait de ses gros yeux effarés et d'un air joyeux toute une hideuse collection de ciseaux et d'instruments coupants et piquants. Son chapeau était plein de charpies et de bandes de toile entassées pêle-mêle dans la coiffe. Lucille se courbait au-dessus de lui en lui appuyant familièrement une main sur l'épaule, tandis que de l'autre, elle maniait avec dextérité les affreux instruments pour se rendre compte de leur forme. Fin du premier volume.